L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, compté par le professeur Ahmed Tchoppa.
Qui aujourd'hui pourrait imaginer une numérotation sans le zéro? Et pourtant, il fut un temps où le zéro n'était même pas un chiffre, encore moins un nombre. On attribue son invention aux Babyloniens au 3e siècle avant Jésus-Christ. Sa première fonction est de désigner le vide et de le marquer. Il n'est donc pas pris en compte dans les calculs. Après ce statut de simple marqueur, le zéro devient un chiffre, du moins chez les Chinois. Mais le changement capital et radical est celui où le zéro passe enfin du simple rang de chiffre à celui de nombre. Transition effectuée grâce aux Indiens et qui est liée à l'invention de leur système décimal au 5e siècle. La suite est connue, les sciences arabes compilent les savoirs anciens, intègrent le zéro dans les calculs, fondent entre autres l'algèbre et par là même révolutionnent les mathématiques que nous utilisons aujourd'hui. Professeur Djebar, bonsoir. Alors ce soir, c'est pratiquement une belle histoire que vous allez nous conter puisqu'on va passer du rien à l'infini.
Bonsoir, bien, je vais essayer de parler du zéro sans être trop technique, surtout pour les auditeurs qui, depuis peut-être l'école primaire, ont commencé à avoir peur des mathématiques.
Eh ben justement, pour la nulle en maths qui collectionnait les zéros, je vais peut-être me réconcilier avec cet ennemi intime. D'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le zéro? Autrement dit, est-ce que le zéro a besoin d'une définition ou bien est-ce qu'il a plusieurs définitions? C'est quoi?
Ah, voilà, c'est une question difficile. Alors, si on voit à quelle occasion est apparu le zéro, dans quel texte, dans quelle pratique mathématique, eh bien, on a la réponse à votre question. En fait, il y a plusieurs réponses. Le zéro, vous l'avez dit d'ailleurs dans l'introduction, eh bien, le zéro apparaît d'une manière tout à fait naturelle comme le concept de rien. Et ça, sans que les mathématiques se développent. Si vous faites des transactions commerciales, par exemple, vous avez un capital, et ça, c'est ce qui est arrivé hein, dans les temps anciens, des milliers d'années avant. Vous avez des transactions commerciales, vous avez un capital, vous faites du commerce, et puis à chaque fois que vous faites du commerce, par exemple, vous perdez. Vous perdez un jour 2 dinars, un jour 1000 dinars, un jour, et vous n'avez que 4200 dinars. Mais à la fin, vous êtes un mauvais commerçant, bien sûr. Mm-hmm. Mais si vous êtes un bon calculateur, calcul mental, à la fin, vous constatez que vous aviez 4200 dinars et au dernier jour, il ne vous reste plus rien parce que vous avez tout dépensé, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas eu de bénéfice. Donc, vous savez très bien que, en fait, vous avez fait une opération qui est que 4200 dinars moins 4200 dinars parce que vous les avez dépensés, ou vous les avez perdus, ou on vous les a volés, eh bien, c'est égal à rien. C'est à partir de là que va lentement apparaître la notion de zéro. Donc, au départ, c'est juste la constatation qu'il n'y a plus de sous dans la poche.
Hélas.
Alors, cette constatation, ensuite, évidemment, va se voir plus clairement dans les calculs. Quand on fait des opérations, par exemple, vous avez une opération et vous retranchez des nombres, des quantités, parce que vous avez fait une facture. Vous avez bien, à un moment donné, vous pouvez très bien avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0. Les unités, il n'y a plus d'unités, il n'y a plus de dizaines, il n'y a plus de centaines, etc. Et donc, vous dites, ben, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, mm-hmm. La différence entre deux grandeurs est égale à rien. D'ailleurs, le mot rien a désigné aussi, dans certaines langues, le fait que c'est un zéro. En arabe, on dit la shay.
Ah oui, c'est vrai.
C'est-à-dire
oui.
non-chose. Il n'y a plus de chose. Il y a aussi l'apparition de cette notion de zéro qui est à la fois un vide ou l'absence de quelque chose, ou bien l'absence de quelque chose qui est d'une nature parfois très bizarre. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez en géométrie, depuis la nuit des temps, l'être humain sait ce que c'est qu'une longueur. Donc une longueur, c'est quelque chose qui a une grandeur, on peut la mesurer. Mais ici, la différence entre une longueur et une surface. Et donc, cette surface aussi peut se mesurer. Et ici, ce qui est la différence entre une surface et un volume.
Bien. Oui.
Mais alors maintenant, si on lui pose la question, mais de quoi est fait le volume? Il dira, le volume, il est entouré de surface. Très bien. De quoi est fait la surface? Elle est entourée de longueur, de côté.
Oui.
Très bien. De quoi est faite la longueur? Elle est entourée de deux points à l'extrémité. Et de quoi est fait le point? Alors là, il ne sait plus. Il dit, ben de rien. Ah, de rien. Mais le point, il existe. Oui, mais il existe, mais la longueur, elle a une dimension.
Mm-hmm.
La surface, elle a une dimension.
Oui.
Par des petits carreaux.
Oui.
Les volumes, elle a des dimensions par des cubes.
Oui.
Mais le point est sans dimension. Il a zéro dimension. Donc, il n'a pas quelque chose qui n'est ni la valeur, ni le dinar, ni rien du tout, mais c'est la dimension. C'est un objet mathématique pourtant qui existe, mais il existe dans l'esprit, mais il n'a pas de dimension. C'est étonnant que quelque chose existe tout en étant zéro ou rien. Ça se comprend très bien. Hein. Le troisième aspect, c'est plutôt quand on entre dans une phase élaborée. C'est lorsque, à un moment donné, on veut réellement désigner dans une numération l'idée que c'est vide, et qu'il y a un chiffre qui n'existe pas. Et ça, ce n'est pas les Indiens qui sont les premiers nécessairement. Nous avons des traces que cette idée de zéro, ce concept de « il n'y a rien », c'est qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de dizaine, etc., dans n'importe quel système de numération, du moins écrit. Parce que les systèmes qui sont avec des instruments comme des baguettes ou des bouliers, il n'y a pas de zéro, parce que physiquement, on ne peut pas le mettre, ou en tout cas, on ne l'a pas mis. Le système de calcul digital et mental, il n'y a pas de zéro. Si ce n'est que quand il fait le calcul, il dit « ah, il ne reste plus rien ». Mais on ne peut pas le configurer. D'ailleurs, on n'a pas. Dans le calcul digital, on n'a pas représenté le zéro par les doigts, alors qu'on représente le 1, le 2, le 10,
effectivement,
etc. Voilà. Par contre, ça apparaît dans les calculs écrits, quel que soit le système, pour dire « là, il n'y a pas d'unité ». Alors, comment on fait? Chez les Mésopotamiens, 2000 ans avant Jésus-Christ, non, quand même un peu plus tard, on a représenté l'absence de chiffres par un espace vide. C'était suffisant pour celui qui était initié. C'était suffisant pour les calculateurs et pour leurs élèves.
Mais il avait cette forme que l'on connaît aujourd'hui, une espèce de, j'allais dire, de rond ovale.
Non.
Quelle définition? Même pas.
Non, pour les Mésopotamiens, c'était un espace vide. Il y a trois centaines, il n'y a pas de dizaines, et il y a cinq unités. Donc, il n'y a pas de dizaines, il laisse un espace blanc.
D'accord.
Mais tant que ce sont ses propres calculs, il sait qu'il y a un espace blanc. Donc, il n'y a que 302, par exemple. Il n'y a pas 322. Et s'il écrit beaucoup de calculs et qu'il écrit vite, il a tendance à ne pas laisser assez d'espace. Donc, on ne distingue plus le vrai espace, qu'il n'y a plus de dizaines, et puis les espaces naturels entre les chiffres. Et donc là, il faut vraiment lire le contexte mathématique pour savoir qu'il y a un zéro. Alors, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Il dit non, on ne peut pas laisser un espace blanc. Il faut mettre quelque chose de matériel. Donc, le zéro qui n'était rien et qui n'était pas représenté, ce qui est tout à fait naturel puisqu'il n'est rien, eh bien, il va devenir quelque chose qui existe, mais qui symbolise le rien. C'est ça qui est étonnant.
Donc, ils ont donné une forme.
Suivant les peuples. Alors, on trouve que chez les Mésopotamiens, ils ont mis des chevrons inclinés. Vous savez, les chevrons comme les grades de sergent, là.
Oui.
Eh bien, deux chevrons inclinés, les Incas. Les Mayas mettent des coquillages. On a trouvé chez les Grecs le zéro qui représente donc une place vide sous forme d'un rond avec une barre au-dessus, comme un oméga renversé. Chez les Cambodgiens, il y a le zéro. Chez les Chinois, il y a eu un zéro à un moment donné. Donc en fait, le zéro est apparu pour représenter ce concept de « il n'y a pas de chiffre dans telle position » chez beaucoup de peuples qui ont calculé. Et puis les Indiens sont parmi eux. Donc en fait, au départ, les Indiens ont inventé le zéro. Comme d'autres peuples, ils l'ont inventé comment? Bon, ils mettaient un point.
En fait, nécessité fait loi. Chacun avait son symbole, a fini par trouver le symbole qui permettait de représenter ce rien et qui pouvait être compréhensible par tout le monde.
Pas tous les peuples, parce que ça dépendait de l'évolution de leurs calculs.
C'est évident, là.
Et du développement de leurs calculs, qui est lié lui-même au développement des transactions commerciales.
Oui.
Et du développement de la répartition des héritages et de l'arpentage. C'est lié vraiment à des problèmes matériels. Donc, pour revenir aux Indiens, eh bien, les Indiens ont défini le zéro. Mais ce qu'ils ont fait de plus, c'est qu'ils ont défini le zéro dans un système de numération qu'ils étaient les seuls à avoir inventé. Donc, en fait, l'invention du zéro en tant que tel n'est pas très très fondamentale et importante. Et c'est pas important de dire qui est le premier. Ce qui est important de dire, c'est dans quel contexte mathématique le concept de zéro va jouer un rôle. S'il reste uniquement dans le contexte des Babyloniens, il n'est pas allé très loin. Le contexte des Grecs, il n'est pas allé très loin. Celui des Chinois, non plus. Celui des Mayas et Incas, non plus. Par contre, ce sont les Indiens qui, les premiers, on ne sait pas très bien à quelle époque, ont d'abord inventé un système de numération qu'on appelle positionnel. C'est-à-dire que la position d'un même chiffre, le 1 ou le 2, suivant qu'il est à droite, suivant qu'il est à gauche, suivant qu'il est au milieu, il a une signification soit des unités, soit des dizaines, soit des centaines.
C'est-à-dire qu'il avait une valeur particulière en fonction de la place où il était.
C'est parce qu'ils ont inventé le système positionnel qu'ils ont eu besoin, donc par nécessité comme vous le dites, ils ont eu besoin de repérer la position où il n'y a pas de dizaines. Alors je prends par exemple 120. Il y a une centaine, deux dizaines, il n'y a pas d'unité. Donc il peut mettre un coquillage.
Oui.
Il peut mettre un point.
Oui.
Il peut mettre un scarabée.
Oui.
Ils ont mis un point et puis d'autres ont mis un rond, d'autres ont mis quelque chose. C'est pas ça qui est important. Maintenant, c'est devenu mythique. En Orient, c'est le point. Et puis ici, au Maghreb et en Europe, dans tout le monde, c'est le rond. Mais c'est venu après. Ce qui compte, c'est qu'ils ont compris que là où il n'y a pas d'unité, on met un symbole pour qu'on ne se trompe pas. Si on mettait un espace vide, on ne saurait pas. Imaginez 120, vous mettez rien. Vous croyez que c'est 12. Alors maintenant, si au lieu de 120, vous voulez écrire 102, c'est toujours le 1, toujours le 2, mais vous intercalez entre les deux le 0. Si vous l'intercalez pas, vous avez le droit. Vous mettez un espace blanc. Mais si vous écrivez très vite, vous savez plus si vous avez mis 1, 0, 2 ou si vous avez 1, 2.
Oui.
Parce que l'espace peut être trop petit.
Et ça fait la différence entre 12 dinars et 102 dinars ou 120 dinars.
Et c'est important dans la vie quand même. Donc voilà un peu la réponse en fait, qui est une réponse historique et puis sociologique aussi. Si vous...
Alors le mot zéro, lui, il vient d'où ?
Ah, à l'origine, c'est le mot arabe sifr. Sifr. Sifr, sad, fa, ra. Et sifr, ça veut dire tout simplement... vide, rien. En arabe, hein, étymologiquement. Avant même que les mathématiques indiennes soient connues par les arabes vers le début du 9e siècle, grâce à l'Khawarizmi.
Donc l'étymologie est arabe.
Oui, est arabe. Il y avait un mot indien, mais ils ne l'ont pas repris. Ils ont traduit cette fois-ci. Alors qu'ils ont repris le mot sinus indien, jiva, ils l'ont juste transcrit, ça a donné jaib, et ils ont cru que c'était un mot arabe, jaib, les latins, alors qu'en fait c'est jiva, et puis les latins se sont trompés, ils l'ont appelé sinus, parce qu'ils croyaient que c'était la poche. Alors je reviens donc à ce zéro, c'est sifr. Mais le mot sifr, dans tous les livres de mathématiques arabes du 8e siècle jusqu'au 12e siècle et plus tard au 19e, quand on voulait parler du zéro, on dit le sifr. Quand arrivent les Européens, ils découvrent les mathématiques écrites en arabe. Ils les découvrent, comme je l'ai dit, à Palerme et à Tolède. Ou alors, ils les découvrent à Béjaïa, à Tunis, parce qu'il y a quelques intellectuels européens, comme Fibonacci au 13e siècle, comme Ramon Loul au 13e siècle, ont été des voyageurs. Ils ont appris l'arabe, ils sont allés donc apprendre aussi des mathématiques, etc. Et donc, ils ont vu le mot arabe « sifr ». Sifr. Ils l'ont transcrit « sifra ». Ensuite, ça a donné « sifra » en latin. Ensuite, ça a donné « chiffre ». Mais ce n'est qu'une transcription avec une phonétique latine, parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer le « sad »,« sad », « sifr ». Et le « ra » aussi. Et ça a donné « chiffre ». Et à l'origine, « chiffre » voulait dire seulement « zéro ».
Ah bon ?
Bien sûr. Et puis après, le « chiffre » a donné « tous les nombres du système décimal, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Et pour distinguer ces 9 et le vrai 0, ils ont gardé le mot chiffre pour 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 et 0, alors que les deux sont de la même origine arabe.
Effectivement, oui.
Pour le 0 lui-même.
Jolie histoire. Pour un chiffre mythique, pratiquement. Le zéro, justement, il apparaît quand ? Il apparaît pourquoi ? Il apparaît comment et sous quelle forme ?
Il apparaît d'abord comme un élément de position, c'est tout. Et ensuite, pendant des siècles et des siècles, il restera comme ça. Bien. Il apparaît uniquement dans les systèmes positionnels ou semi-positionnels, c'est-à-dire qui utilisent le fait que le même chiffre est à droite, à gauche ou au milieu. Ça permet de faire des économies. Par exemple, on peut calculer et faire de la numération, écrire des chiffres avec 27 symboles. Ça s'appelle la numération alphabétique. On utilise l'alphabet arabe. Abjadha wazhutti kalamun. Je l'ai appris par cœur. Hein. Et donc, avec les 28 lettres de l'alphabet, c'est très bien parce que 9 lettres donnent les unités. Abjadha wazhutti jusqu'à ta, c'est 9 unités. Ensuite, ti kalamun, c'est les 9 dizaines. Ensuite, les 9 centaines. 3 fois 9, 27, il reste 1. Et bien, les Arabes vont l'utiliser pour les milliers. Eh bien, il n'y a pas de zéro. Voici une numération. Abjadha wazhutti kalamun. Il y a tout l'alphabet. Et il n'y a pas de zéro. Et pourtant, ils vont calculer pendant des siècles en astronomie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont hérité cette numération des Grecs, qui eux utilisaient alpha, bêta, gamma. Alpha égale 1, bêta égale 2, gamma égale 3, etc. Et les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alpha, ils ont dit Elif égale 1. Beta, Ba égale 2. Gamma, Jim, G égale 3. Alors, Abjad, Hawes, donc voilà. Ils ont repris l'alphabet grec. Ils ont transcrit en alphabet arabe. Et ils ont donné les mêmes valeurs numériques à chacune des lettres grecques. Ils vont les transposer aux valeurs, aux lettres correspondantes du point de vue de la prononciation arabe. Et c'est un système qui a fonctionné, je vous assure, du 8e siècle jusqu'au 19e siècle pour les astronomes. Et Dieu sait que les astronomes arabes et musulmans étaient les plus puissants dans l'astronomie du monde, hein, entre le 9e et le 14e siècle, c'est reconnu. Ils n'ont pas éprouvé le besoin de calculer avec le système indien qui était beaucoup plus performant, alors qu'ils n'utilisaient que 9 chiffres plus le magique 0, parce que le 0 faisait gagner combien? 9 plus 1, ça fait 10. Eh bien, on gagne 17 symboles. 18 symboles même. Parce que c'est 27 plus 1, ça fait 28. Donc, cette économie, elle était tentante. Mais les astronomes calculaient, quand ils calculaient dans les transactions ou dans les mathématiques ordinaires avec le système indien, quand ils faisaient de l'astronomie, ils calculaient avec les 27 chiffres. C'est absolument étonnant. Ils abandonnaient les zéros. Tout simplement par habitude.
Ça veut dire qu'il y a eu quand même des gens géniaux qui ont pu calculer sans utiliser le zéro.
On peut calculer sans utiliser le zéro, bien sûr. C'est plus long.
Est-ce que c'est plus précis?
C'est aussi précis. Sauf que c'est plus long. Et l'écriture prend plus de place. Parce que quand vous écrivez 2035, si vous l'écrivez avec le système alphabétique, il y a plus de lettres. Et là, il n'y a que le 2, le 0, etc.
Donc vous venez de nous le dire, de nous le démontrer. Le 0 signifie une seule chose, le rien. Mais il a fini quand même donc par évoluer dans le temps. Et comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé déjà chez les Indiens. Chez les Indiens, Brahmagupta, mathématicien du 7e siècle, grand mathématicien, astronome surtout, savait très bien manipuler, il savait que 5 moins 5 égale 0. Et il l'écrivait.
Mais ça, dans la vie quotidienne, on pouvait s'en apercevoir tout de suite.
Il va intervenir dans les opérations. Alors que jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de numération.
C'est vrai.
Donc 5 moins 5 égale 0. C'est lui le premier qui a dit que 0 divisé par 5, ça donne 0. Bien sûr, ce n'est pas une grande victoire. Ce n'est pas un grand résultat. Mais il a ouvert une voie. Ça veut dire qu'il va manipuler le 0, va lui appliquer des opérations arithmétiques. Alors qu'avant, c'était juste un symbole, un concept. Donc il va le banaliser. Il va devenir petit à petit, surtout avec les musulmans, plus tard, mais lui il a commencé, il va devenir un objet mathématique.
Donc il l'a banalisé, il devient un objet mathématique, il acquiert un statut.
Pas encore, ça c'est plus compliqué encore.
Ah.
Il n'a pas encore le statut de nombre, pas encore. C'est un symbole pour montrer la position vide, pour la signaler. C'est un objet parce qu'on peut lui appliquer l'opération A moins A, ça fait égal 0. On peut lui appliquer aussi, c'est Brahmagupta le premier, il a dit A plus 0 égale A. C'est-à-dire 5 plus 0 égale 5. Et il a dit 0 plus 5 égale 5. Donc ça veut dire qu'il a ajouté l'objet à un nombre comme si on ajoutait 5 à 2. Ça, on le faisait. 5 plus 2 égale 7. Et donc, il a considéré que 5 plus 0, il devait avoir un résultat. Et bien, c'est égal à 0. Donc 0 apparaît non pas seulement pour exprimer rien, mais il est manipulé comme un nombre. Et il a dit 0 que multiplie 5 égale 0. Il a dit 0 sur 5 égale 0. Puis dans sa lancée, il a dit 5 sur 0, c'est un nombre. Mais il n'a pas dit ce que c'est. Et il a dit, c'est quelque chose qui existe. Or, 5 sur 0, ça c'est un problème, il ne l'a pas défini. Plus tard, on dira, c'est une aberration, ça n'a pas de sens. Diviser quelque chose par 0, ça n'a pas de sens. Plus tard, on va lui donner un sens, vous allez voir quand les mathématiques vont évoluer. Donc, pour résumer, ce sont l'évolution des mathématiques, c'est l'évolution du calcul avec l'astronomie en Inde, qui ont autorisé, si vous voulez, Brahmagupta, à donner à ce 0 un rôle d'objet. Il lui restait à obtenir le rôle de nombre, tout court, et il lui restait enfin à obtenir un statut de nombre. Parce qu'on peut manipuler quelque chose comme un nombre sans qu'il ait un statut. Eh bien, à un moment donné, 14e siècle, un mathématicien, petit mathématicien, de Constantine d'ailleurs, s'appelle Ibn Qunfud al-Qasantini, Ibn al-Khatib al-Qasantini, il a fait un commentaire d'un livre du 13e, Ibn al-Banna, qui est mort en 1321, puis à un moment donné, il dit, je vais résoudre l'équation suivante. Il dit, un marchand a un capital, il commerce avec ce capital, il fait un bénéfice et il dit, si je fais un bénéfice, eh bien, je fais une sadaqa de dinars. Ensuite, il dit, mon Dieu, si je double mon capital avec mon business, je fais une sadaqa de 2 dinars. Puis il a continué à faire ça et après la 5e opération, il lui reste plus rien. C'est-à-dire que c'était un bon musulman, mais un mauvais commerçant.
Le pauvre.
Ça existe. Hein. Mais oui. Ça nous a donné un beau problème de mathématiques. Parce que pour la première fois, une équation aboutit à un rien. Alors la question, c'est, qui est le premier à avoir représenté ce rien comme réellement un nombre? Eh bien, c'est Ibn Qunfud, il l'a mis à droite, égale 0. Et là, il l'a écrit parce qu'il y a le symbolisme de l'équation. Parce que c'est le Brahmagupta qu'on dit 5 moins 5 égale 0, il peut le dire dans sa tête, tout le monde peut l'écrire. C'est pas le résultat d'un processus opératoire. Et donc, le zéro commence à acquérir, non pas un statut, parce que le statut c'est plutôt quelque chose de sociétal. Il faut que la communauté scientifique décide, à partir de maintenant, nous autorisons les gens à dire que ça c'est un nombre. Or, ils pouvaient pas le dire. Pour des raisons qui ne sont pas scientifiques. Pour des raisons que je peux appeler philosophiques, idéologiques.
Alors, est-ce que justement le développement du calcul a apporté quelque chose à ce zéro, même si on n'a pas toujours fait appel à lui?
Alors, lorsqu'arrive l'algèbre, lorsque les équations apparaissent, lorsqu'il faut résoudre les équations, eh bien, il y a des conditions pour qu'une équation ait une solution. Alors, pour les élèves qui sont jusqu'en terminale, ils savent que cette condition, c'est une formule. Vous avez une équation, et si les coefficients de l'équation, hein, par exemple 3x2 plus 5x égale 2, le 3 et le 5, c'est un coefficient. Et 2, c'est des coefficients. S'ils répondent à une formule, si cette formule donne un nombre positif, alors on peut extraire la racine. D'accord? Et la racine, ça nous permet de calculer les solutions. Et figurez-vous que il y a des moments où, quand vous faites la formule avec les coefficients, ça donne pas un nombre, ça donne 0. Et si vous voulez une solution, vous devez prendre la racine. Eh bien, c'est la première fois qu'on prend la racine de rien, parce que ajouter un rien, bon, ça va, le retrancher, ça va, diviser par un nombre. Mais faire une opération sophistiquée, qui est une technique, un algorithme de racine carrée de quelque chose de rien, ça paraît insensé. Mais ça ne devient plus insensé si zéro n'est plus vu comme un rien, mais vu déjà comme un objet mathématique. Alors ça, c'est l'étape que j'ai décrite tout à l'heure. Mmh. Et donc là, du coup, un mathématicien du Xe siècle, hein, musulman, ou du 13e, Ibn al-Banna toujours, il dit, quand vous arrivez à racine de 0, eh bien, racine de 0 égale 0. Il ne le démontre pas, mais racine de 0 égale 0. Il vient d'appliquer une opération complexe d'extraction de racine carrée, racine cubique, à quelque chose qui est rien. Il l'a fait parce qu'il croit maintenant que c'est vraiment un nombre. Mais est-ce que ça l'autorise quand même de dire que c'est un nombre? Là, ce ne sont pas ces pratiques mathématiques qui vont l'autoriser. Est-ce que la communauté scientifique autorise les mathématiciens à dire que 0 est un nombre? Eh bien, ils ne l'ont jamais dit.
Pourquoi?
Et les Européens aussi ne l'ont jamais dit. Pourquoi? Au 13e, 14e, 16e, jusqu'au 17e, 18e siècle. Parce que pour pouvoir dire que 0 est un nombre, il fallait d'abord être autorisé par ses pairs à dire que 1 était un nombre. Or, 1 n'a jamais été considéré comme un nombre par les Grecs. Parce que les mathématiciens, pendant une longue époque, faisaient des mathématiques à partir de définitions qui sont liées à des objets concrets. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent définir que des objets concrets. Il a fallu un temps pour que la première fois un mathématicien donne une définition par convention. C'est-à-dire que vous trouvez pas l'objet lié à cette définition dans la nature. D'accord? Eh bien, le premier objet, effectivement, qui est par convention, c'est le zéro. On dit, le zéro est un objet mathématique, mais en fait, il est rien. Je peux pas vous le montrer. Mais on lui applique quand même les opérations. Ça paraît idiot. Mais c'est une avancée des mathématiciens parce qu'ils ont transgressé leur habitude qui est de définir uniquement des choses concrètes. On sait ce que c'est qu'une longueur. On sait ce que c'est qu'une surface. On sait ce que c'est qu'un volume.
Oui.
On fait attention d'ailleurs qu'on n'ajoute pas un volume à une surface. On ajoute des surfaces à des surfaces. On ne divise pas un segment ou une surface par un volume.
Ça, je l'ai au moins compris en maths.
On divise un volume par un volume. C'est-à-dire qu'on prend les mesures, etc. Bref. Donc, il y avait des interdits. Parmi les interdits, on ne peut pas dire que 1 est un nombre. Pourquoi? Parce qu'il disait, ça, c'est les philosophes grecs. Ils disaient, 1 ne peut pas être un nombre, parce qu'ils avaient une définition du nombre qui est étymologique. Nombre, adad, c'est-à-dire multiplicité, c'est-à-dire beaucoup. Voilà, nombre, c'est beaucoup. Donc, ils disent, on ne peut pas dire que 1 est beaucoup puisqu'il n'est qu'un.
Oui, pas 1 fois 2, 1 fois 10.
Voilà.
Oui,
bon. Et puis, un autre argument. Ils disent que 1 ne peut pas être un nombre, parce que c'est lui, c'est grâce à lui qu'on peut définir les nombres. Parce que c'est grâce à 1 plus 1 qu'on a 2. C'est grâce à 2 plus 1 qu'on a 3. Mais comment vous obtenez 1? Est-ce que vous obtenez 1 par une opération arithmétique?
Non.
Vous pouvez pas. Vous allez me dire, oui, mais c'est 0 plus 1 égale 1. Mais non, puisque 0 n'est pas un nombre. C'est compliqué. Donc, ils étaient prisonniers d'une vision des nombres. Ils disaient, 1 n'est pas un nombre. Et puis, en plus, les philosophes disent que 1, surtout dans leur vision philosophique et même théologique, 1, c'est la cause première. Pourquoi? Grâce à 1, on fait 2. Grâce à 1, on fait 3. On fait 4. On fait 5. Mais il n'y a rien qui puisse nous donner 1, si ce n'est la volonté de Dieu, bien sûr. Mmh. Et pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'unique, l'unicité. Donc, il y a eu une confusion aussi entre les discussions théologiques, les considérations mathématiques, philosophiques qui ont fait qu'ils ont bloqué les mathématiciens. Et ils ont dit, écoutez, 0, c'est un objet. 1 est un objet, il peut créer les nombres, mais il n'est pas un nombre. Les Grecs, ils sont même allés jusqu'à dire que 2 n'est pas un nombre. Et les Arabes les ont suivis au début. Pourquoi? Parce que 2, par définition, c'est le musanna. C'est pas l'adad. Les nombres chez les Grecs commencent à 3. Parce qu'il y a l'unité, le duel, une séquelle culturelle, hein, l'homme et la femme, la lune et le soleil.
Le bien et le mal.
Le bien et le mal. Et le vrai nombre, c'est 3. À tel point d'ailleurs que certains peuples africains, il y a longtemps, ils comptaient avec 1, 2, et quand ils arrivaient à 3, ils disaient la multitude.
Alors, est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est l'algèbre arabe qui a vraiment amélioré la situation du zéro, et donc de 1, 2 et de tous les autres?
Du moins, elle a préparé l'idée que zéro peut être considéré comme un objet mathématique, parce qu'il a été manipulé comme ça. Et d'ailleurs, des mathématiciens, à ce moment-là, ont le courage de dire, je le dis aujourd'hui avec un terme moderne, zéro est un élément neutre. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous avons une théorie qui s'appelle la théorie des groupes. Et un groupe, ben, c'est un ensemble d'objets dans lequel il y a une opération, l'addition par exemple. Et donc, il y a un élément neutre. A moins A, 5 moins 5 égale 0. Et donc, le zéro joue un rôle d'élément neutre. Les Arabes ont compris aussi que zéro joue un rôle d'élément absorbant. Brahmagupta l'a dit, mais ce qu'a fait Brahmagupta, il restait très local et ça n'a pas été développé. En fait, il l'a déjà dit, Brahmagupta, il l'a écrit à sa manière. Mais vous voyez bien que c'est un bel exemple. Ce n'est pas parce qu'un individu génial, aussi génial soit-il, découvre les prémices de quelque chose, pour qu'on dise ça c'est la découverte. Il a fallu qu'il y ait une nouvelle phase de développement mathématique, et dans le cadre de ce développement nouveau, pour que ce qu'il a découvert reprenne un peu de la vigueur et effectivement permette d'évoluer dans un autre contexte sociologique, historique, culturel et scientifique, parce que ça va avec le développement des mathématiques. Et donc l'algèbre, effectivement, a aidé le zéro à devenir un monsieur fréquentable.
Bon. Alors, est-ce qu'il a acquis à ce moment-là ce statut ou c'est plus tard encore?
Non, on lui a pas donné le statut de nombre, mais on l'a manipulé comme un nombre. C'est pas seulement un concept, c'est devenu un nombre de fait. D'ailleurs, on a manipulé un aussi comme un nombre, deux comme un nombre. Et ce n'est qu'après, lorsque on va découvrir certaines vertus du zéro, que les Arabes n'ont pas découvertes. Pourquoi? Parce que c'était l'état de leurs mathématiques. Il va y avoir un autre développement des mathématiques en Europe, évidemment sur le socle grec et arabe. Et à ce moment-là, de nouvelles ouvertures vont apparaître, de nouveaux concepts vont être définis. Et le zéro, on va le rappeler, mais pour d'autres choses.
Donc ce zéro devient un véritable objet mathématique grâce à l'algèbre. Il a ensuite été considéré comme un nombre. Quelles sont alors les innovations qui ont été faites grâce à la présence ou à l'utilisation du zéro? Parce que j'imagine que toutes les portes s'ouvrent.
D'abord, déjà dans la tradition arabe, hein, dans l'émission que nous avons faite sur la linguistique et la combinatoire,
oui.
On a vu que le Khalil ibn Ahmad utilisait le zéro dans un but très très intéressant, qui était de représenter le haraka, le mouvement, et le 1 pour le sukun, pour le non-mouvement, pour la fixité. Eh bien, voilà un rôle inattendu, joué par le zéro, de représentation d'un phénomène cette fois-ci. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un objet. Il exprime un phénomène qui est le mouvement dans l'expression phonétique d'un mot arabe. Et il va devenir un symbole très important dans la manipulation combinatoire pour pouvoir expliquer comment on fabriquait, comment les poètes réalisaient leurs poèmes en respectant les rythmes et les maîtres.
Le fameux pam-pam-pam du forgeron.
Absolument. Eh bien, le pam-pam-pam, le pa-pa-pa, c'est 0-0-0-0 et le am-am, c'est le 1. Et ce sont donc des combinaisons de zéro. Alors là, on a manipulé le zéro non pas pour la numération, non pas pour le calcul, mais pour des besoins tout à fait originaux, nécessité par un domaine non mathématique et où le zéro a été incontournable. Parce que ça permettait d'expliquer d'une manière combinatoire, très ingénieuse, les structures internes, moléculaires on dirait, de la poésie arabe.
Et qui était, je dirais, l'ancêtre du langage informatique d'aujourd'hui.
Absolument, puisqu'aujourd'hui, toute l'informatique est basée sur le principe très simple de combinaison de 0 et de 1, c'est-à-dire passage de courant, pas de passage de courant. Plus tard, évidemment, il va y avoir appel au secours du zéro, parce qu'on va généraliser la notion de zéro. Par exemple, lorsqu'on va définir ce qu'on appelle la notion de polynôme. Un polynôme, c'est une suite de nombres. 1,3, 4, 7, 9. Ou bien on l'appelle aussi A0 plus A1X plus A2X2, etc. Eh bien, ces suites de nombres forment un ensemble. qui a ses règles. Il y a une loi, des opérations addition, multiplication, etc. On peut multiplier des polynômes, les ajouter, les diviser. Et donc, automatiquement, puisqu'il y a des opérations, il y a des moments où, quand on opère, on ne trouve rien. Donc, il fallait définir qu'est-ce que c'est qu'un zéro. Mais un zéro polynôme, c'est pas comme un zéro nombre. Le zéro nombre, vous mettez un zéro, vous dites ça, c'est le zéro. Le polynôme, comme c'est une suite de nombres, eh bien, on définit un polynôme zéro, c'est 0,0,0,0 6 fois, quand c'est un polynôme de degré 5. Donc, voilà un zéro qui est une adaptation du zéro des nombres. Et on a inventé un concept de zéro pour une famille d'objets nouveaux qui avait déjà été découverte par les Arabes d'ailleurs, par les musulmans. C'est Samo el-Maghribi, mort en 1175. Al-Karaji, mort en 1029 avant lui. Ensuite, Sharafuddin al-Tosi, Omar al-Khayyam, qui ont étudié ces polynômes. Et ces polynômes se construisent uniquement par une combinaison et addition, multiplication des inconnus et des coefficients. Ensuite, il y a eu développement des mathématiques. Et puis, on a eu besoin de manipuler des objets qui ne sont plus une série de zéros alignés comme ça, qui donne le polynôme, un polynôme nul. On a inventé des objets qu'on appelle des matrices. Par exemple, prenons une matrice 3-3. Il y a 3 zéros, en dessous 3 zéros, en dessous 3 zéros. C'est la matrice nulle. Donc, toutes les matrices d'ordre 3, comme on dit, hein, donc c'est un tableau, il y a des chiffres comme ça, des chiffres. 1, 2, 3, 5, 6, 12, etc. Mais ils forment un ensemble. On y définit une opération, l'addition. On peut définir une multiplication. Eh bien, à partir du moment où vous définissez l'addition, donc il y a la soustraction, qu'est-ce que c'est que la différence de deux matrices? Ça peut arriver que ça soit un zéro. Qu'est-ce que c'est qu'un zéro? Pour un tableau, hein. On sait ce que c'est qu'un zéro pour 5 moins 5. Maintenant, on sait ce que c'est, on a avancé, hein. On est dans l'émission presque à la fin. On sait ce que c'est qu'un zéro polynôme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un zéro? C'est un tableau où il n'y a que des zéros. Donc il y en a 9. Alors c'est 9 zéros qu'on décrète être le zéro de la famille des matrices 3-3. Et ça, c'est une théorie très importante de l'algèbre qu'on enseigne en première année, en deuxième année d'université aujourd'hui.
Oui, j'allais dire que ceux qui adorent les mathématiques vous auront bien suivi. Voilà. J'avoue que je suis un petit peu perdue, mais je me console en me disant que je suis peut-être pas la seule ce soir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres utilisations, d'autres innovations qui ont été faites grâce à ce fameux zéro?
Alors là, il y a eu quelque chose que les Arabes ont commencé quand même à développer. Vous allez être étonnés, c'est que les Arabes ont su ce que c'était que le zéro. Mais dans leur pratique de l'astronomie, dans leur pratique du calcul, ils ont eu à faire des calculs, par exemple, à trouver une solution d'une équation. Ils ne pouvaient pas trouver la solution exacte. Et alors, ils se sont dit, mais comment? On n'a pas de moyens. Les Arabes ont échoué pour la résolution des équations du troisième degré. Ce sont les Italiens au XVIe siècle qui vont trouver l'algorithme. Ils n'ont pas d'algorithme. Ils ont inventé une démarche, une procédure, on appelle ça un algorithme, pour trouver une solution approchée. C'est-à-dire que ils peuvent approcher la solution, mais ils ne peuvent pas la trouver exactement. Par exemple, si la solution était 3, mais ils ne savent pas que c'est 3, hein, ils vont trouver un moyen pour pouvoir trouver 2,8 ou 2,87. S'ils affinent l'approximation 2,874, donc ils peuvent approcher le plus loin possible le 3, mais ils ne peuvent pas l'atteindre avec leurs moyens.
Oui, c'est quand on fait certaines divisions.
Voilà. Alors, ils viennent d'inventer un nouveau rôle au zéro. Pourquoi? Parce que ils vont calculer de sorte que la différence entre leur calcul et la vraie valeur, sans qu'ils la connaissent, soit aussi petite que l'on veut. Ah, voilà une notion nouvelle. Quand on fait un calcul en sachant que l'on cherche une valeur qui est aussi proche de celle qu'on ne connaît pas, donc dont la différence est aussi petite que l'on veut, ça veut dire que il faut que la différence soit presque zéro. Donc il n'y a plus la notion de zéro, il y a la notion de presque zéro. Et c'est cette notion de presque zéro que l'on va développer pour développer tout un chapitre qui s'appelle la théorie des approximations. Par exemple, Al-Kashi, au XVe siècle, mort en 1429, 14e, 15e, va même plus loin. Il va dire, je vais calculer la valeur de sinus 1 degré, parce qu'évidemment, sinus 1 degré, il a pris le bon exemple, on ne connaît pas sa valeur exacte. C'est comme pi.
Oui.
On peut pas. Je vais calculer le rapport de la circonférence au diamètre, il a écrit un livre entier sur ça, de sorte que je peux contrôler l'erreur qu'il y a dans mon calcul et la valeur véritable que je ne connais pas. Il dit, je veux calculer de telle sorte que l'écart entre la vérité que Dieu seul connaît et mon calcul soit plus petit que 1 sur 1 milliard. Il définit la longueur de l'erreur. Et alors, comme il peut la définir, il peut encore la définir plus fine, plus fine, plus fine, très proche de zéro. Et donc, c'est cette idée qu'il est possible d'approcher le zéro sans l'atteindre qui est nouvelle. C'est une idée infinitésimale. Autre élément maintenant qui va être développé réellement chez les Européens.
Voilà. J'allais vous poser la question parce qu'en fait, les Arabes, grâce à l'algèbre, aux mathématiques et à, je dirais, toutes les innovations à apporter grâce au zéro, leur ont mâché le travail, si je puis dire.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a eu quand même des sauts qualitatifs.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, une nouvelle mathématique va se développer, en particulier, donc continuant à développer, à enseigner les mathématiques, évidemment, arabes et grecques et indiennes. Oui. C'est les mathématiques infinitésimales. C'est-à-dire, là, on va développer des éléments, des outils qui vont permettre de faire des calculs très très fins. Je vous donne un exemple. Vous avez les entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Maintenant, vous prenez un demi, un tiers, un quart, un cinquième, l'inverse,
oui,
etc. Qu'est-ce que vous sentez? Un demi, un tiers, c'est plus petit. Un quart, c'est encore plus petit. Un cinquième, plus petit. L'auditeur sent très bien que si je continue encore, des milliers, des milliers, des millions, plus je continue, plus la quantité est encore plus petite. Donc, j'ai l'impression qu'un jour, j'arriverai à zéro.
Probablement, mais il faut aller vers l'infini, alors.
Ah, voilà. C'est lorsque, à un moment donné, des mathématiciens on pensait accepter l'infini aux côtés du zéro, qu'il va y avoir des découvertes nouvelles. Vous avez une quantité, un demi, un tiers, un quart, un cinquième, etc. Elle tend vers zéro lorsque le nombre va vers l'infini. Plus le nombre vaut des milliards et des milliards et des milliards, plus 1 sur 1 milliard, 1 sur 10 milliards est encore petit, 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 petit.
Mais on n'a pas encore atteint le zéro.
Oui, mais ça veut dire que en allant vers l'infini, on produit quelque chose qui va vers le zéro. Donc, en fait, l'infini et le zéro sont étroitement liés par cette opération. Mais vous allez voir, c'est encore plus compliqué. Lorsque vous avez 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. Maintenant, vous voulez les ajouter. Vous ajoutez 1 demi, 1 tiers, 1 quart, comme ça devient petit, très très petit. 1 millième, 1 millionième, vous vous dites, ben, la somme de tout ça, jusqu'à l'infini, ça va donner une valeur, parce que ça devient tellement petit, vous ajoutez des tout petits, 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 des cheveux d'ange. Eh bien, c'est faux.
Pourquoi?
Parce que si vous ajoutez un demi plus un tiers plus un quart, etc., vous trouvez l'infini. Par contre, si vous ajoutez un demi plus un demi au carré plus un demi au cube plus un demi puissance 4, etc., eh bien, vous trouvez un nombre tout à fait exact. Et on peut même le calculer. Pourquoi? Parce que là intervient un autre phénomène. Grâce à cette association subtile du zéro et de l'infini, ça dépend de la vitesse à laquelle ces nombres tendent vers zéro. 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième tendent vers zéro beaucoup plus lentement. C'est une 2 chevaux par rapport à 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième, etc. qui va beaucoup plus vite vers zéro. Vous le sentez bien, hein? Et donc, on dit c'est une vitesse de convergence. La vitesse de convergence d'une suite qui tend vers zéro, si elle est forte, si elle est bonne, ça permet que la somme infinie, vous vous rendez compte, que l'infini est un sens. C'est qu'on trouve une valeur exacte. Et voilà cette association du zéro et de l'infini qui va se faire essentiellement en Europe à partir de la fin du XVIIe siècle va donner un nouveau statut, un nouveau rôle au zéro. Et ça continue encore, bien sûr.
Il y a un roman célèbre de Arthur Koestler qui s'appelle justement Le zéro et l'infini. Bon, j'ai lu il y a très très longtemps, écrivain réputé et très très beau livre. Je ne sais pas si je me suis réellement réconciliée avec les mathématiques, mais en tout cas, le zéro est tout à fait sympathique. Et si vous me permettez, je suis sûre que les auditeurs et les auditrices seront d'accord avec moi, on vous met un 20 sur 20.
Oui, il y a quand même un zéro là. Hein.
Exactement, zéros, en plus. Non, mais vous méritez réellement votre 20 sur 20 ce soir pour nous avoir expliqué cette magnifique histoire, cette très très belle histoire, je ne sais pas quel est le terme, d'abord du zéro et puis donc toutes ces innovations, comment il a traversé les siècles pour devenir un chiffre et un nombre absolument incontournable aujourd'hui dans la numération. Merci pour Sergio Bar.
Merci, c'est moi qui
pour cette belle histoire ce soir et puis pour les auditeurs, et bien on se retrouve la semaine prochaine dès 18h15 pour un autre feuilleton, un autre épisode, une autre étape, vous choisirez le terme que vous voulez pour cette belle saga de l'âge d'or des sciences arabes. Merci pour Sergio Bar et puis rendez-vous pour les auditeurs, les auditrices à la semaine prochaine, 18h15. Bonne semaine.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Jabbar. Présentation Dalila Smaril. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.